Les gants en croix, par Alfred Edward Woodley Mason. Peu importe que vous ayez quitté Ronda depuis 5 ans, dit sévèrement à Denisher, le commandant des troupes espagnoles, le pays n'a pas changé. Vous le connaissez, paraît-il, très bien, et c'est ce qui vous désigne entre tous vos camarades. Vous monterez à cheval ce soir, vous irez à Olvera porter le pli que voici à l'officier commandant la garnison temporaire. Il suffit que vous soyez à destination vers 11 heures. Vous avez donc devant vous 1 heure ou 2 de loisirs, si, comme je le crois, il vous plaît de renouer quelques anciennes connaissances. Au nom d'Olvera, tout l'ennui de Cher s'était fondu en allégresse, car la route qu'il allait suivre longeait les murs blancs et la grille de la petite résidencia solitaire où il avait compté passer sa première soirée de cantonnement à Ronda. En sortant de chez le colonel, il évita les places et les rues qui lui promettaient trop de rencontres. On ne manquerait pas de l'assaillir de questions sur les circonstances qui avaient fait de lui un sujet espagnol, cavalier de l'armée royale et capitaine. Mais il fut en selle dès 7 heures, et il venait de se mettre en route quand, passage de la Plaza de Toros, ailé tout d'un coup par une voix familière, il se retourna et vit un vieux padre qui, pour avoir jadis remporté un petit prix de logique à l'université de Barcelone, poussait jusqu'à la manie interrogeante le goût d'induire et de déduire. Il ne pouvait refuser de s'arrêter, mais il se hâta de parer aux innombrables questions qui le menaçaient à propos de son uniforme. Il annonça qu'il allait à Ronda et qu'il devait y être avant 11 heures. 15 000 à faire, dit le padre. Vous faut-il 4 heures et une monture de rechange pour un trajet de 15 000 ? J'ai, répondit Shaw, des amis à voir sur mon chemin. Et comme le padre faisait mine de n'en rien croire, il ajouta « De ce côté de cette île. » Mais on n'avait pas ainsi raison du bonhomme. Autant que je sache, il n'y a de ce côté de cette île qu'une maison. Or, j'ai vu, de mes yeux vus, à Ronda, aujourd'hui même, Esteban Silvela. Esteban doit être rentré à pareille heure. Et du reste, ce n'est pas lui que je vais voir. Pas lui, s'écria le padre. Ce serait donc sa sœur, la Seigneura Christine, dit Shaw. Immobile, à distance, l'ecclésiastique considéra l'officier. Puis, timidement et de l'air de citer un texte, « Toutes les femmes sont comédiennes par nature. » proféra-t-il. « Parole excessive, » répliqua Cher, très calme. « Parole souvent dite naguère. Autant vous cultiviez la vigne dans la vallée de Ronda. » C'est donc que les gens me croyaient fou. Et puis à cette époque, je n'avais encore jamais vu la Seigneura Christine. Je connaissais son frère, mais non pas elle, qui n'était qu'une enfant. Et je savais tout juste son nom. Ils allèrent côte à côte. L'officier se penchait sur son cheval et de confidence en confidence, il comptait au padre toute son histoire. Ayant fait un petit héritage, il s'était mis à voyager. C'est au cours de ses pérégrinations qu'un jour, à Paris, il avait rencontré Christine. L'Espagne était divisée en 2 camps qui se combattaient âprement, les partisans du roi et les fidèles du prétendant évincé, Don Carlos. Dans un de ces petits cercles carlistes, il avait entendu appeler d'une porte le nom qu'il connaissait déjà et vu apparaître la personne qu'il ne connaissait pas encore. Il décrivit Christine. Elle marchait avec des façons de gazelle, comme si elle eût foulé non pas un parquet, mais le gazon. Le sang colorait ses joues. Sa chevelure noire reluisait. Tout son corps ondulait. Ses grands yeux clairs regardaient avec assurance. Elle était charmante de jeunesse. « Elle passa devant moi, » continua Char, et le sentiment du dévergondage où mes pensées, mes propos avaient coutume de se complaire, m'étreignit soudain comme une angoisse. Je dus, sans m'en rendre compte, fixer les yeux sur elle. Peut-être laissais-je deviner mon trouble. Toujours est-il que, juste en face de moi, l'éventail lui glissa des doigts et claqua sur le plancher. Le padre était à 100 lieues de comprendre l'embarras de Cher dans le récit d'une aventure aussi médiocre. « Eh bien, dit-il, vous ramassâtes l'éventail et vous... »« Non, » interrompit Cher, de plus en plus gêné et balbutiant d'étranges sortes. À cette minute précise, je me demandais brusquement si, après tout, je n'avais pas toujours eu raison de douter qu'il y eût au monde une femme capable de sacrifier la moindre parcelle d'admiration masculine, quand, pour l'obtenir, il ne fallait qu'un peu de malice. Tandis que je me posais cette question, elle se baissa, ramassa elle-même l'éventail, et me remercia de mon peu de galanterie en me tirant la révérence. Dans la soirée, Esteban me présenta. Alors suivirent 2 mois d'enchantement à Paris, puis un 3e, qui était le mois de juin à Londres. « Mais Esteban, » demanda le padre, « je ne saisis pas. Je connais suffisamment Esteban Silvela. Un homme de complot et de trame. Mon ami, Savez-vous qu'Esteban n'a pas un centime ? La fortune et le domaine des Silvella viennent de la mère qui les a transmis à la fille. Esteban gouverne les biens de la seigneura Christine, et le mariage de la sœur changerait, pour ne pas dire plus, l'état du frère. Esteban ne chercha pas à vous gâter l'enchantement de vos deux mois de Paris ? L'officier se mit à rire, très haut, sur le ton de la pleine confiance. « Non, certes, je ne savais pas qu'Esteban dépendit de sa sœur. Mais en quoi son état pourrait-il changer par le mariage de Christine ? Il est mon meilleur ami. Vous alliez tout à l'heure m'interroger sur mon uniforme. C'est grâce à lui que je le porte. »«
Oui, à propos, contez-moi donc cela, » dit vivement le padre.
Un soir de ce mois de juin que nous passâmes à Londres, et au cours duquel je vis pour la première fois la seigneura, nous dînâmes tous les trois dans une maison amie. Au moment où les dames se levaient de table, je dis tranquillement à Christine « Voudrez-vous tantôt m'accorder un entretien ?»«
Bien volontiers, »
répondit-elle, le plus posément du monde. Mais si discret qu'eût été ce colloque, Esteban avait surpris la réponse de Christine. Il se rapprocha de moi, au point que sa chaise entrait dans la mienne. Je lui demandai s'il me croyait des chances, et s'il daignerait les seconder. Il se montra cordial, tout en estimant avec sa fierté d'Espagnol que je devais, ce sont ses propres termes, pourvoir d'une façon quelconque à l'insuffisance de ma fortune. Et il fit miroiter à mes yeux cet uniforme. Son observation n'était que trop fondée. Je pris congé de Christine sans m'être déclaré, je réunis mes papiers, je sollicitai et j'obtins la naturalisation espagnole. Enfin, Esteban me procura une commission dans l'armée. Il y a de cela 2 ans. Depuis, je n'ai pas revu Christine. Je ne lui ai pas écrit. Tout en causant, les deux hommes étaient arrivés au bout de la ville. Alors ils se séparèrent. Shore descendit la colline au grand trot, et le padre, s'arrêtant, le suivit d'un regard mélancolique. Ce n'était pas seulement qu'il se méfia d'Esteban, mais il connaissait Shore, cadet d'une famille appauvrie venue s'établir en Espagne, dans un petit domaine de la vallée de Ronda, qui était la propriété des siens depuis les jours de Wellington. Il le connaissait comme un être orageux, toujours prêt à passer d'un extrême à l'autre. Il se rappelait le ton ardent de ses paroles, sa promptitude à se reposer sur la bonne foi d'Esteban, sa description de Christine. Il se demandait si, à ce degré de soudaineté et de violence, la conversion de ce sceptique passionné en un croyant passionné pouvait être durable. Cependant, Shore s'en allait bien tranquille, si tranquille même qu'il retenait son cheval pour savourer à loisir, d'avance, l'accueil qu'il ne manquerait pas de recevoir quand il apparaîtrait à l'improviste. Il franchit de petits bois d'amandiers et de noyers. Ensuite, la campagne se découvrit sauvage et pierreuse. Le crépuscule tombait, quand au pied d'un âpre monticule, il vit blanchir faiblement 4 murs de clôture et un groupe de bâtiments intérieurs. Comme il approchait, des lumières commencèrent de se mouvoir aux fenêtres. Puis, sur le côté de la route qu'il suivait, un homme apparut inopinément, qui siffla très fort, 2 fois, de l'air d'appeler un chien. Shore passa devant l'homme et, trouvant la grille ouverte, entra dans la cour. Des serviteurs qui rôdaient s'empressèrent à sa rencontre, comme si son arrivée leur eût semblé toute naturelle. Il leur mit son cheval et gravit d'un élan l'escalier de pierre. Aussitôt, un domestique s'avança et le précéda, le long d'une galerie, vers une porte. Mais Shore, dans son impétuosité, prévint le domestique, ouvrit la porte et entra sans se faire annoncer. La chambre était longue, basse, avec des lambris de noyer foncé. L'unique lampe posée sur la table faisait plus d'ombre que de lumière. Penchés sous l'abat-jour, un homme et une jeune fille examinaient ensemble quelque chose. La jeune fille donnait des explications à l'homme, des rayons jouaient dans ses cheveux noirs, et Shore fut pris d'un grand battement de cœur. Mais il eut à peine le temps de voir, de comprendre. Esteban, ayant levé la tête, accourait à lui. Une certaine inquiétude se trahissait sur sa figure, et il interrogeait du regard le domestique.
« Évidemment, dit-il, évidemment, j'aurais dû prévoir que vous viendriez, que vous entreriez de vous-même. »«
Certes, » dit Shore, plus attentif à Christine qu'à son frère.
Cette arrivée inattendue avait sans doute produit un effet, mais non pas celui que Shore avait cru pouvoir se promettre. S'il y avait beaucoup d'étonnement dans les yeux de Christine, on y aurait aussi démêlé de la consternation. Quand elle parla, ce fut dans une espèce de torpeur et comme absente.
« Vous allez bien ? Voilà longtemps que nous ne vous avons vu. 2 ans, n'est-ce pas ? Plus de 2 ans ?»«
Que de changements depuis lors, » fit Esteban. « Nous avons eu la guerre, hélas, et les défaites. »«
Oui, j'étais à Cuba, » répondit Shore. La conversation traîna.
Esteban s'efforçait à la cordialité, mais Christine demeurait taciturne et lointaine. Scheurs avisa qu'elle avait dû rentrer tard, car elle portait encore son chapeau et ses gants étaient posés en croix sur la table, dans le rond lumineux de la lampe. Elle arpentait fiévreusement la chambre, s'arrêtant de temps à autre pour prêter l'oreille au moindre bruit de la cour ou pour jeter un regard inquiet vers la porte. Scheurs pensa qu'elle attendait quelqu'un et qu'il gênait. C'était donc là qu'aboutissaient pour lui 2 années d'espérance. Il se leva, découragé, mais Esteban lui fit signe de rester, sourit et, sous un vague prétexte, quitta la chambre. Cependant, Christine allait et venait le long d'une rainure du parquet avec la même application que si elle eût marché sur la corde raide. Scheurs, s'approchant de la table, se mit à jouer distraitement avec les gants qu'il décroisa. « Vous rappelez-vous, dit-il, un certain soir de notre séjour à Londres ?» Christine s'arrêta une seconde et simplement, sans que rien dans sa voix trahît un reproche. « Vous auriez dû parler ce soir-là, » répondit-elle. Puis elle reprit son exercice. « Oui, » répliqua Scheurs, « je l'aurais dû. Mais je n'étais pas en état de vous offrir le mariage. Et c'est tout d'un coup que ce soir-là, je découvris un moyen de rendre ma situation moins insuffisante. « Ah !» s'écria-t-elle avec passion. « Le beau moyen qu'a Ouscol. » Et, se campant devant lui, « Eh bien, entre vous et moi, il y a ce morceau de cuivre. Il me ferme les oreilles. » « Où nous sommes-nous vus pour la première fois ?»« À Paris. Mais encore ?»« Dans un cercle, Karl. » Il n'acheva pas. Rivant ses yeux sur ceux de Christine, il fit un pas vers elle. « Et moi qui pensais, gémit-il, que comme moi, vous y veniez pour rire. » Mais elle, avec indignation, « On ne rit pas d'une croyance. » Il fit un geste de désespoir et se laissa tomber sur un siège. Esteban s'était joué de lui. Esteban n'avait que trop de raisons de se jouer de lui. Le padre savait à quoi s'en tenir là-dessus, et tout cela était irréparable. Pour s'en convaincre, il n'avait pas besoin de regarder Christine. Droite et lui faisant face, elle laissait voir moins de colère que d'amitié et de pitié. Mais à cette minute, il lisait profondément en elle. Le regard de Christine pouvait s'attendrir, non pas sa résolution. Elle était carliste dans l'âme. Elle était avec foi, et plus qu'avec foi, avec fureur. En sorte qu'il reconnaissait purement un fait quand il répliqua « Et l'on n'abdique pas une croyance. « Non, » fit-elle, « mais... » Et d'une voix qui décelait son propre doute, « Mais l'on peut toujours renoncer à un uniforme. » Scheurs se redressa. « Non, » dit-il, « cela non plus n'est pas possible. Sans doute c'est à cause de vous que j'ai sollicité mon brevet. Mais je serais tout aussi bien devenu carliste, si j'avais su. Je n'inclinais pas plus vers un parti que vers l'autre. Je n'avais qu'un grand espoir, un grand désir de vous. J'ai commis une erreur contre laquelle il n'y a pas de recours. » Christine se rapprocha. « En effet, » approuva-t-elle avec douceur, « j'attendais de vous cette réponse. Dans le fond de mon cœur, je ne crois pas que j'en eusse aimé un autre. Merci, » dit-il, et consultant sa montre, « j'ai du chemin à faire. Je dois être pour 11 heures à Olvera. » Il eut le sentiment d'une immobilité subite, d'un arrêt même du souffle chez Christine. « Vous allez à Olvera ?» demanda-t-elle enfin d'une étrange voix blanche. « Oui, et c'est pourquoi je vous dis au revoir. » Alors il leva les yeux sur elle, mais elle détourna la tête d'un mouvement si rapide qu'elle prémint son regard et se dirigeant vers la porte. « Il faut que vous preniez congé d'Esteban. » Elle semblait vouloir gagner du temps. Une main posée sur la poignée de la porte, elle s'arrêta. « Dites-moi, » s'écria-t-elle, « est-ce mon frère qui vous conseilla d'entrer dans l'armée ? Est-ce lui qui vous facilita l'obtention du brevet ? « Ne le niez pas, c'est mon frère. » Elle se tut, songeant à la révélation qui venait de se faire en elle. Puis elle ajouta, « Avez-vous vu Esteban à Ronda cet après-midi ? » ?»« Non, j'ai seulement su qu'il y était. Mais il faut que je m'en aille. » Il cherchait sa coiffure. Quand il se tourna vers la porte, il vit Christine adossée au panneau, les bras étendus et lui barrant le passage. « Vous n'avez rien à craindre, » dit-il. « Je ne chercherai pas querelle à Esteban. » Il est votre frère et le mal est fait. Au surplus, je ne vois pas que ce soit mal quand je me reporte aux années d'avant l'uniforme. Années de petites peines égoïstes, d'adversions mesquines, de chétives ambitions. J'éprouve un sentiment de bien-être à me savoir détaché de tout cela et devenu l'un des 1000 rouages nécessaires d'une grande machine, encore que la machine grince et ne soit pas des meilleurs. Qui plus est, j'y trouve de la dignité. Christine ne répondit pas. « Vous portez les ordres à Olvera ? » demanda-t-elle enfin. Je ressortis de sa poche le pli cacheté. « Il faut que je parte. Je me mettrai en faute. Donnez-moi cette lettre. » Il la regarda étonné. Puis l'étonnement fit place au soupçon. Tout son visage parut se rétrécir, s'aiguiser, cesser d'être lui-même, prendre ce quelque chose d'étiré de menu qu'il y a chez le renard. « Non, » répliqua-t-il, remettant lentement la lettre dans sa poche. « Quand je passais sur la route, un homme siffla. Quelque signal, sans doute ? Vous êtes carliste. J'ai donné dans un piège. » « Un piège qui n'était pas pour vous, » dit Christine. « Je vous l'affirme. Jusqu'au moment où vous avez parlé d'Olvera, je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas, soit. Mais Esteban, mon arrivée vous a surprise. Ce qui l'a surpris, lui, c'est la brusquerie de mon arrivée. Il me demanda, je m'en souviens, si c'était de moi-même que j'avais franchi la grille. Il avait passé la journée à Ronda. Qui donc aura prévenu mon colonel que je connaissais le pays ? Lui, apparemment. » Il était dans son dessein de me représenter à vous non pas seulement comme un ennemi, mais comme un ennemi en campagne. Oui, tout cela je le comprends, mais... » La voix du jeune homme devint plus âpre. « Mais du moins, vous saviez qu'un piège était tendu au porteur de cette lettre. Vous aviez votre rôle dans la comédie. » Un grand éclat de rire le secoua, et il répéta le mot, si délectant, si appesantissant, comme si une idée quelque temps perdue de vue lui revenait subitement à la mémoire. Et la comédie pouvait, je crois, faire place au drame. Que serait-il arrivé si je n'avais tourné de moi-même à la grille? Jusqu'où m'eût-on laissé continuer dans la direction d'Olvera, et par quels aimables moyens m'eût-on arrêté? On se fut contenté de prendre votre cheval par la bride. Après quoi, l'on vous eût dit, en s'excusant, que, puisque vous alliez à Olvera, j'avais à vous demander un petit service. Prétexte, mensonge, vous êtes là, me barrant la porte, et vous n'aurez pas la lettre. Je suis innocent que tout ceci, mais dans l'ombre du couloir derrière votre porte, ou dans l'obscurité du chemin hors de la grille, n'y a-t-il pas quelqu'un pour guetter ma sortie, Esteban peut-être? Je vous prouverai que vous vous trompez. » Abaissant les bras et dégageant la porte, Christine sonna. « Esteban va venir. Il vous reconduira jusque sur la route. Il vous remettra lui-même en sûreté dans la direction d'Olvera. » Elle avait repris son sang-froid, ni sur son visage, ni dans sa voix. Dans ses allures, il n'y avait plus la moindre trace d'affolement ou d'émotion. Mais la soudaineté même d'un tel changement accrut les soupçons de Scheur. Une minute avant, blême, les nerfs tendus, les yeux écarquillés d'horreur, Christine défendait la porte. Maintenant, elle se tenait auprès de la lampe, dans l'attitude la plus naturelle. Elle parlait sans contrainte, en jouant d'un air dégagé, avec les gants sur la table, et il tâchait de s'expliquer cette métamorphose. Un domestique ayant répondu à l'appel, Christine le pria d'aller chercher Esteban. Scheur ne surprit entre eux aucun regard de connivence, aucun geste, aucun signe. « Nous ne voulions de mal à personne, » reprit-elle, sitôt la porte refermée. « Je n'ai rien à exiger d'Esteban. Je lui promis qu'une fois le porteur introduit dans cette chambre, je saurais me faire donner cette lettre. » Et Scheur observa que, d'une main distraite, elle recroisait les gants sous la lampe. Un instinct l'avertit d'abord qu'elle démentait ses paroles par cet acte, puis la raison lui confirma l'instinct. Ses gants se trouvaient ainsi disposés quand il était entré dans la chambre. Christine et Esteban se penchaient à ce moment sur la table. Christine expliquait quelque chose à son frère. Lui expliquait-elle cette disposition des gants? Convenait-elle avec lui de ce signe pour lui faire savoir s'il avait réussi à se procurer la lettre? Scheur éprouvait maintenant vis-à-vis d'elle autant de méfiance qu'elle lui inspirait de confiance une demi-heure auparavant. Il songeait à un moyen d'éclaircir ses doutes. Cette lettre avait pour nous tant d'importance, disait-elle. Il semblait indispensable d'empêcher que des ordres ne parvinssent cette nuit à Olvera. Car Olvera, il y a quelqu'un. Vous voyez que je me fie à vous, bien que vous soyez notre ennemi juré. Quelqu'un de considérable, que nous aimons, sur qui nous comptons pour régénérer notre Espagne. Ce n'est pas notre roi que je veux dire, non, mais son fils jeune et brave. Il repartira demain soir. Ce soir, il est à Olvera. Aussi, quand Esteban a appris aujourd'hui que des ordres allaient être envoyés au commandant de la place, nous n'avions pas le choix. Ces ordres ne devaient pas arriver à destination. Et à moins que d'employer la violence, ce qu'on n'eût pas manqué de faire en dépit de mes prescriptions et de mes consignes, il n'y avait qu'à me laisser user de moyens féminins pour m'assurer du message. « Et le messager ?» demanda Scheur, se rapprochant de la table. « Qu'en faisiez-vous ? » Sans doute, il pouvait rentrer à Ronda, piteux et perdu d'honneur, quitte vis-à-vis de ses chefs à se tirer d'affaire par quelques mensonges plus ou moins habilement forgés. Peut-être aviez-vous pour lui une fable toute prête ? Christine recula, comme s'il lui portait un coup. « Le messager, vous n'y pensiez pas ? continua Asher. C'est un soldat loyal à son départ de Ronda. Qu'est-il à son retour? Pas plus un soldat que le gant que je touche. » Il prit un des gants, le garda une minute, puis l'ayant rejeté loin de l'autre, il s'empressa de tourner le dos à la table, tandis que Christine ripostait. « Le messager n'était pour nous qu'un ennemi, et chargé de nous jouer un mauvais tour, comme nous de lui faire pièce. Vous voilà cependant, et personne n'a tenté quoi que ce soit contre vous, avouez-le. On n'a pas touché à l'ordre que vous portez, votre honneur est sauf. Et parce que nous n'aurons rien empêché, il peut en résulter pour nous un désastre. Avouez-le donc. Nous ne nous reverrons plus, je suppose. Vous pouvez bien avouer cela, et que je n'ai pas joué la comédie avec vous. » Cette supplication venue d'une femme dont il savait que l'orgueil était la qualité dominante et qui s'humiliait ainsi devant l'injure, émut malgré lui le jeune homme. Il dévisagea Christine. Il fut sur le point de lui donner l'assurance qu'elle réclamait, et soudain il se ravisa. « Pas jouer la comédie, en êtes-vous sûr ?» Il venait de s'apercevoir que pendant qu'il tournait le dos, les gants s'étaient pour la deuxième fois recroisés. Cela du moins, il en avait la certitude. Il avait la certitude que ses gants en croix avaient un sens pour Esteban et l'informait que la lettre n'avait pas changé de main. Il répéta « En êtes-vous sûr ?»« Bien sûr. » Christine, entendant remuer la poignée, marcha vivement vers la porte. Jean la suivit. Mais durant une fraction de seconde, il s'arrêta devant la table, sépara les gants et délibérément, nettement, les mit l'un en face de l'autre. Quand la porte s'ouvrit, il était placé de telle manière qu'il masquait la vue de la table à Christine, mais non pas à Esteban, arrêté sur le seuil. Esteban regarda la table, Christine observait son frère, et quand son frère la regarda, Cher saisit le rapide accord de leurs yeux complices. Il ne doutait pas d'avoir brouillé leur petit jeu. Enfin, il prit courtoisement congé de Christine, et ce fut d'un air de triomphe qu'il accompagna Esteban au dehors. Christine resta debout, sans autre mouvement, sans autre changement d'attitude qu'une légère tension du cou pour écouter décroître les bruits des pas de son amoureux. Quand elle eut cessé de les entendre, elle courut à la fenêtre, l'ouvrit et se pencha, prêtant l'oreille. Le cheval piaffait dans la cour. Esteban adressait des compliments à Cher, qui lui répondait. Au dur claquement des sabots sur le pavé, succéda leur battement assourdi sur la route. Le dialogue, en s'éloignant, devint un murmure. Une voix claire jeta « Bonne nuit !» Un trot résonna. Christine ferma la fenêtre. Ses yeux reprirent peu à peu possession de la chambre. Elle vit la lampe sur la table, puis sous la lampe, les gants parallèlement étalés. Elle ne poussa pas un cri. Elle refusait d'en croire ses yeux. Elle dut toucher les gants pour se convaincre. Encore se demanda-t-elle un instant si ce n'était pas elle-même qui, par mégarde, les avait disposés de la sorte. À la fin, cependant, elle comprit. Oui, Cher ne s'y était pas trompé. La disposition de ses gants sur la table avait un sens même. Sitôt le stratagème éventé par un de ces revirements coutumiers à sa nature, il avait passé en un instant de la confiance aveugle à l'aveugle méfiance. N'ayant plus aucune foi dans Christine, il avait cessé de la regarder, de l'écouter. Tandis qu'elle agissait pour le protéger, il avait cru à une comédie pour le perdre. Il avait soupçonné ses gants en croix de signifier qu'il avait toujours le pli cacheté dans sa poche quand ils annonçaient au contraire que n'ayant plus sa lettre, il pouvait repartir. Christine bondit à la porte, s'élança dans le corridor et, tout d'une haleine, gagna la cour. Elle ne rencontra personne. Le logis était silencieux et désert comme une ruine. Elle traversa la cour dont les murs rayonnaient d'une blancheur pâle, franchit la grille, passa sur la route. Au milieu de la chaussée, loin, devant elle, dans la nuit claire, un fanal rougeoyait. Elle pressa le pas et vit un groupe de gens dont la flamme éclairait de bas en haut les figures. On ne la remarqua que lorsqu'elle fut tout près. Un homme emmenait un cheval dont la selle était vide. Un autre enroulait une grosse corde. Esteban, qui tenait le fanal, l'éleva pour le mettre de côté. « Un accident, dit-il, une chute de cheval, et bien malheureuse, le cheval étant tombé avec le cavalier. »« Un accident, fit Christine, montrant la corde que l'homme achevait d'enrouler. « Est-ce par accident que des cordes sont tendues sur une route ?» Elle avait interdit la violence. À quoi eût-il servi de le rappeler? À rien. À rien. Ni alors, ni jamais. Elle-même l'avait dit à Cher. Elle s'avança jusqu'à l'endroit où il gisait sur le sol, livide, beau et torturé par la souffrance. Elle s'agenouilla, lui prit la tête dans ses mains, comme pour la hausser jusqu'à elle, mais un homme l'arrêta en lui disant « La colonne vertébrale, signora. » Cher ouvrit les yeux, la vit se pencher, et le regard qu'il attacha sur elle la glaça d'épouvante. Aucun regard humain, dans aucun moment, n'avait pu exprimer tant de haine. Il bougea les lèvres, elle approcha l'oreille afin de saisir les mots qu'il allait dire, mais il ne dit qu'un mot qu'il répéta. « Comédie, comédie !» L'heure n'était pas aux discussions ni aux explications. Christine avait épuisé les arguments. Elle lui baisa la bouche. « Et ceci, est-ce de la comédie ? » s'écria-t-elle. Mais Esteban lui posa la main sur l'épaule. « Il ne vous entend plus. Il ne peut plus vous répondre. » Et c'était vrai. Sean n'entendait plus Christine. Elle sut qu'elle-même avait fini de l'entendre. Il était mort dans l'instant du baiser. « Il a toujours la lettre, » dit Esteban. Christine écarta son frère d'un geste et s'accroupit devant le mort comme pour le défendre. « C'est vrai, » fit-elle au bout d'un moment, « la lettre. » Elle défit la veste de Sher et doucement prit la lettre qu'il portait sur sa poitrine. Puis il s'agenouilla de nouveau et sans proférer un mot, regarda l'adresse. Esteban ouvrit le fanal pour l'aider à lire. « Non, » dit-elle, étrangement calme, « il vaut mieux que j'aille à Olvera. » Elle partit à cheval dans la nuit. On la laissa partir, trompée par son sang-froid et supposant qu'elle voulait porter la lettre à l'homme considérable. Mais le sang-froid de Christine ne signifiait que l'engourdissement de sa pensée et de sa sensibilité. Elle n'avait conscience que d'une chose, à savoir que la mission de Sher devait être remplie puisqu'il s'en faisait un point d'honneur. Elle courut d'un trait chez le commandant du détachement, parla d'un accident survenu au porteur de la lettre et la remit elle-même. Le commandant, l'ayant lu, se montra désolé qu'elle eût pris tant de peine, car il ne s'agissait que d'un ordre de rappel pour lui et ses hommes. Et alors seulement, elle commença de comprendre ce qui était arrivé. Ainsi s'achève Les gants en croix par Alfred Edward Woodley Mason.